Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà donc pour cette affaire criminelle de 2006 et je voudrais tout de suite faire appel à maître Pierre Stichelbaud qui est l'avocat de Benoît Piette. Bonjour maître.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez qu'au fond le contexte de ce crime, j'ai envie de dire la misère tout de même dans laquelle évoluait cette famille, l'alcool que consommait votre client dans le déni mais qu'il consommait, peut expliquer ce verdict de clémence ?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une famille qui rencontrait évidemment des difficultés. Vous avez rappelé un contexte difficile, cette famille nombreuse, une famille modeste qui vit effectivement des allocations familiales. Mais ce qui a vraiment compté pendant le procès d'assises, c'est l'absence de corps. On n'a pas de corps, on ne peut pas prouver que Benoît Piette a voulu tuer sa femme. Quand il y a un corps, il peut y avoir par exemple une autopsie, on peut prouver qu'il y a des coups mortels qui ont été portés, des marques de strangulation. Là, on n'a pas de corps, on n'a rien. Donc comment est-ce qu'on peut prouver que Benoît Piette a voulu tuer sa femme?
C'est de là donc que vient le doute qui finalement profite à l'accusé.
Oui, bien sûr, et c'est un doute qui est important parce que si vous êtes condamné pour un meurtre sur conjoint, vous encourez la perpétuité. Par contre, si on a une affaire requiée, les faits dont Benoît Piette s'est rendu coupable en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine maximale courue, c'est 20 ans.
L'expert psychiatre a diagnostiqué une paranoïa. Il dormait quand même dans un tipi d'Indien. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas très équilibré, manifestement. Mais il ne considère pas que cette paranoïa est une abolition de son discernement. Est-ce que les jurés ne viennent pas dire aussi que peut-être l'expert est allé un peu vite ?
Non, je pense que les jurés ont compris qu'il s'agissait d'une personnalité étonnante. Moi-même, j'ai été surpris quand on rentre dans cette maison de voir toute cette instrumentalisation autour des Indiens. Benoît Piette, c'est quelqu'un qui vient dire que son mode de vie, c'est la nature. Il a d'ailleurs dit plusieurs fois, ma loi à moi, c'est pas la loi des hommes, c'est la loi de la nature. Et je crois que ça résume bien l'état d'esprit qui est le sien. C'est quelqu'un qui vit dans son coin, qui vit seul. Alors on peut interpréter ça comme de la paranoïa, mais c'est d'abord quelqu'un qui vit auprès des natures et finalement pense très peu aux autres.
Est-ce qu'il a gardé, à votre connaissance, un contact avec ses enfants depuis sa condamnation ou est-ce qu'ils ont refusé de lui pardonner ?
Absolument aucun contact et les enfants ne veulent pas le rencontrer.
Oui, il en souffre ?
Il en a souffert dans un premier temps, puisqu'il faut savoir qu'après le procès, donc, il a fallu confier les enfants qui avait déjà été confié avant, donc dans des familles d'accueil, mais il a fallu renouveler les mesures de placement. Il a tenté un nouveau contact, il a eu un contact par l'intermédiaire du juge, par l'intermédiaire de l'avocat, mais il a très vite compris que les enfants ne souhaitaient absolument pas le revoir, et aujourd'hui, il ne cherche plus du tout à entrer en contact avec ses enfants.
Cet homme est toujours en prison à l'heure où on parle ?
Oui, tout à fait. Il est en fin de peine puisque il peut bénéficier d'une libération conditionnelle arrivée à mi-peine et il est en prison depuis 2008.
Il est question qu'il sorte ou pas ?
C'est une demande qui va être formulée, il a le droit.
Je suis au téléphone avec maître Colette Loas, qui était avocat partie civile dans cette affaire. Vous défendiez maître des enfants d'Adeline Piette. Est-ce que ils ont compris ce verdict et admis ce verdict ?
Écoutez, lors de la cour d'assises, ils ont été très choqués. Pourquoi ? Ce n'est pas le quantum qui, moi, me satisfait. 20 ans, c'est une peine lourde, mais c'est effectivement la qualification. Nous étions tous, que ce soit le parquet, que ce soit les avocats, nous étions convaincus de la culpabilité, de l'intention de tuer de Benoît Piette. Et les enfants non juristes n'ont pas compris effectivement que la qualification ne soit pas un homicide volontaire. Et ça a été effectivement, comme souvent, requalifié en coup volontaire et entraîné la mort sans intention de la donner. Et j'ai écouté Pierre, mon confrère, qui a effectivement dit, quand on a un corps entier, on peut voir, après l'autopsie, les blessures et comprendre ce qui s'est passé. Mais il a fait, comme malheureusement font les assassins, il a fait disparaître le corps afin de faire disparaître toutes les preuves. Mais ça n'empêche pas que le quantum homme était très lourd, 20 ans.
Est-ce que dans ce verdict, maître, il n'y a pas aussi, au fond, la prise en compte du contexte? On est dans une forme de misère, misère sociale, misère financière. On a un type qui est paranoïaque.
Qui avait des difficultés, effectivement. Sept enfants, une maman à la maison, et Benoît Piette ne travaillait pas ou travaillait peu. Les allocations familiales servaient juste, je pense, à nourrir la famille. La maison qu'ils avaient achetée, ils la rénovaient un petit peu, effectivement. Mais ce que je voulais dire au niveau des assises, ce que voulaient les enfants, pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce qu'ils voulaient la vérité. C'est ça qu'ils voulaient. Moi, j'ai été pleine d'admiration pour ces enfants qui étaient devant moi, au premier rang, et qui, à aucun moment, n'ont voulu sortir de la salle d'audience. Ils ont tout entendu, ils ont voulu tout entendre, ils voulaient que leur père dise enfin la vérité, alors qu'il a toujours menti. Il a menti jusqu'au dernier moment, quand il nous a raconté l'histoire de la chute dans l'escalier, mais c'est n'importe quoi. Il n'a fait que mentir, manipuler, alors que les enfants voulaient la vérité. C'est ça, au fond, ce qu'ils voulaient, la vérité. Et qu'elle puisse coïncider avec la vérité judiciaire, c'est-à-dire une qualification. Mais on comprend les jurés. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais 20 ans, c'est une peine qui est quand même relativement lourde et qui était adaptée, je pense, effectivement, à ce drame.
Je l'ai raconté, une journée entière de ce procès, qui n'a duré que 4 jours, a permis d'entendre les enfants successivement, oui, les uns après les autres. Oui. On dit que les jurés ont pleuré. Ça veut dire que c'était un moment très touchant.
C'était très émouvant. Parce que le courage de ces enfants, n'oubliez pas qu'il y en a un qui a entendu et qui a compris ce qui s'est passé, le petit, en réfléchissant. Et heureusement, ces enfants ont remarquablement évolué. Ils ont été placés en famille d'accueil. Ils sont soudés ensemble. Et l'aîné des enfants a réussi, et j'étais son avocat, à avoir la garde de tous ses petits frères et sœurs, afin que la fratrie se retrouve.
C'est la sœur aînée qui a la garde.
Oui, je trouve ça absolument admirable, comment au moment du procès, et ensuite dans l'avenir, après, ils se sont soudés, si vous voulez, je trouve ça. Et ces enfants, effectivement, c'était très très émouvant. Moi-même, j'avais les larmes aux yeux quand je voyais ces enfants être sur les bancs, entendre tout et supporter tout ça, mais c'est un véritable traumatisme.
Alors, vous nous dites quel âge ils avaient quand même à l'époque? Alors, tous ces gamins assis sur le banc là.
Les petits, au moment des faits, j'en avais trois. Une, je ne veux pas dire leur prénom, bien évidemment. Oui, oui. La jeune fille avait 12 ans au moment des faits. Les deux autres garçons, dont j'étais l'avocat, avaient 15 ans et 11 ans. Et ensuite, mon confrère Tellier, qui avait, lui, les trois petits derniers. Il y en avait un qui était tellement petit, c'était un bébé. Les deux autres plus jeunes avaient 9 ans et 7 ans au moment des faits. Donc, au moment des faits, vous ajoutez, 5 ans plus tard, hein, oui, ils étaient des grands ados, hein, des jeunes hommes, une jeune fille, lorsque la cour d'assises est arrivée. Hein, et les petits derniers étaient des adolescents. Donc, pour eux, ça a été un véritable traumatisme. Ils avaient perdu leur mère, leur père était en prison, ils étaient dans des familles d'accueil. Donc, tout ça a été très, très difficile à vivre pour ces enfants-là. C'est pour ça que leur courage et leur volonté de savoir la vérité, et surtout la souffrance de voir que leur père, au dernier moment, devant la cour d'assises, dit « je vais vous dire la vérité », il a encore inventé quelque chose, si vous voulez, l'histoire de la chute dans l'escalier. Or, on sait très bien qu'il l'a étranglé.
Est-ce qu'il est pensable qu'un jour, à votre avis, les enfants revoient leur père et considèrent ce que dit le verdict, que c'est un accident?
Je ne pense pas. Parce que la jeune fille que je défendais, elle était la seule à avoir été le voir à la prison et avec simplement l'intention de lui demander de dire la vérité. Mmh. Il n'a rien dit, elle ne voulait plus le revoir. Donc les enfants ne veulent absolument pas revoir cet homme. Absolument pas, ils ne le considèrent plus comme leur père et ne veulent plus porter son nom.
Merci beaucoup, Maître Loas, d'être intervenu depuis l'Ille-et-Vilaine en direct. Voilà donc pour ce récit.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.